Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous écoutez Radio Grenouille, ça vient pas de nulle part. Aujourd'hui, une petite histoire des poubelles de Marseille.
Pour vous, Marseille, c'est une ville propre ou une ville sale ?
Oh bah on peut dire que c'est une ville sale.
Pour quelle raison ?
Ah bah le comportement des gens et puis ensuite après le rythme de ramassage des ordures, il faudrait ramasser au moins deux fois par jour quoi.
Est-ce que vous pensez que Marseille est une ville propre ou une ville sale ?
Oh mais c'est pas difficile à dire, c'est plutôt sale.
Pour quelle raison à votre avis ?
Parce qu'il y a du mistral.
C'est question de politique et la politique c'est de l'argent.
Pour vous Marseille c'est une ville propre ou une ville sale ?
Ah sale.
Pour quelle raison ?
Les gens ils sont sales. Ils jettent tout par terre, il y a les poubelles à proximité, et la poubelle là, ils jettent à côté de la poubelle.
Oui, il y a assez de poubelles à Marseille ?
Ah pas tellement.
Pour vous, Marseille, c'est une ville propre ou c'est une ville sale ?
Ça dépend des endroits, ça dépend des quartiers. En ville, c'est assez sale, mais dans les environs, un peu plus loin, moi j'habite à Saint-Barnabé, c'est beaucoup plus propre.
Est-ce que vous considérez que Marseille est une ville propre ou une ville sale ?
Malheureusement, je ne peux pas aller à l'encontre de tout ce qui se dit, c'est la vérité. Non, c'est pas très propre.
D'accord.
Pourtant, je suis Marseillaise, née à Marseille. Mais bon, après, c'est la responsabilité de chacun. Hein. La responsabilité des institutions et la responsabilité des citoyens.
Pour vous, Marseille, c'est une ville propre ou c'est une ville sale ?
Je ne peux pas vous dire exactement. Je suis ici pour un court séjour.
D'accord.
Pas plus de 15 jours. Donc, je n'ai pas visité toute la ville. Mais les quartiers que j'ai visités, elles étaient plus ou moins propres.
Vous êtes allé dans quel quartier ?
La région de Courbelzins, à Port-d'Aix. C'est un peu propre, voilà.
C'est un peu propre ?
Reste de la ville, je ne sais pas.
Marseille, une ville un peu propre et pourtant plutôt sale, c'est en tout cas l'opinion des chalands que ma complice Juliette Palmade a interrogée. C'était il y a quelques jours sur le marché de la Plaine en plein centre de la cité phocéenne. Mais cette réputation de ville cradingue ne date pas d'hier. Déjà, au début du 19e siècle, dans des récits de voyageurs, Marseille était décrite comme la ville la plus sale d'Europe. L'information est rapportée dans un livre intitulé « Éboueurs de Marseille entre lutte syndicale et pratiques municipales ». L'ouvrage a été publié à l'automne dernier par les éditions Sileps et ses deux auteurs se trouvent à mes côtés dans ce studio. André Donzel est sociologue spécialisé dans la sociologie urbaine. Pierre Godard, lui, est employé municipal et syndicaliste. Il a été éboueur à Marseille pendant 23 ans. Dans quelques minutes, ils vont nous raconter, ensemble, l'histoire des poubelles de Marseille depuis l'époque des balayeurs informels à celle des contrats très juteux de délégation de services publics. En fin d'émission, nous irons visiter un centre de tri des déchets au Pen Mirabeau. Mais tout de suite, nous vous proposons de partir faire un tour au marché du Prado. Ça se passe vendredi passé, c'est le début de l'après-midi. Et une équipe d'éboueurs s'active pour collecter les déchets de la matinée.
On fait la voie de bus au marché du Prado. On commence par la voie de bus où il y a les. C'est le lourd, on appelle ça le lourd où il y a les cagettes, fruits et légumes, tout ça. Alors on va à la côte tralée là.
Moi ça fait 28 ans que je suis à la ville.
Moi ça fait 12 ans.
Et vous, ouais, vous êtes rentré comment ?
J'ai fait un CES au bout de un an et trois mois. Ils m'ont fait un contrat contractuel. Un an, je suis resté. Après, ils m'ont fait un contrat stagiaire, je suis resté un an. Et après, je suis passé titulaire. Voilà, je suis content.
C'est d'avoir un travail.
Mon travail, c'est tout.
Et moi, je peux pas dire comment je suis rentré.
Il se rappelle plus, ça fait longtemps.
J'ai passé à Sony.
Et du coup, vous avez vu des évolutions dans votre métier, j'imagine, entre 12 ans de...
Oui, moi, j'ai connu qu'on n'avait pas les habits, déjà. On travaillait en tenue civile. Après c'est passé parce qu'on a commencé par le ciré. Hein,
ça c'était donc, quand
Je ne m'en souviens plus. Hein, moi je...
Avant on était jaune et bleu, maintenant on est orange et bleu.
C'est vrai, on a changé de couleur. Mais par contre on n'avait pas de conteneur. On prenait tout, tout par terre. Il y en avait plus que ça. C'était vraiment un état monstrueux ici.
Après voilà, ça a évolué quand on était ville de Marseille, après on est passé à la communauté urbaine, là il y a eu beaucoup d'évolutions, on va dire. On avait des vieilles machines et tout, hein, à l'époque on a eu des nouvelles machines, les arroseuses, les balayeuses, c'était mieux quoi, je veux dire.
Non mais le progrès c'est ça, c'est les conteneurs.
Hein. Et il y en a assez pour vous ?
Ça n'est pas les endroits. Si vous allez au marché aux fleurs, il y en a... Comme c'est, les fleurs c'est tout par terre, on se prend tout par terre quoi. Il faut enlever toutes les fleurs.
Tous les ans, on a des nouvelles chaussures de sécurité, c'est bien ça, ouais. Tous les ans. Hein ouais, avant, c'était pas comme ça. Avant.
Mais c'est vrai qu'au niveau de sécurité, ça a bien évolué. Hein.
Et là, on est à quel... Vous en pensez quoi
de la sécurité? Je pense qu'il y aurait peut-être à changer les gants. Parce que les gars, ils se trouent assez rapidement. Et on a souvent des trous. Que, parce que nous, quand on prend par terre, c'est tout, ça se rafle. C'est vrai que les gars, ils ne sont pas de très bonne qualité, mais on les change régulièrement. Donc,
Et les relations avec les citoyens, avec les gens autour de vous?
Il y en a qui sont sympas, ça varie les gens, avec les forêts et tout ça, il y a un très bon rapport. Hein.
Excusez-moi, il y a toujours des cons, quoi, mais c'est rare. Il y en a toujours un qui klaxonne, qui n'est pas content, qui l'attend derrière. Heureusement que c'est rare, on va dire, pas beaucoup. Il y en a toujours qui se plaignent, hein, vous le savez. Comme je vous ai dit, des fois on ramasse un conteneur, là, il est à moitié vide, il y a trois sacs par terre. Donc voilà, après, c'est les gens hein, de réagir. Donc,
Marseille est sale par rapport
aux gens. Aux gens. Quand vous voyez un conteneur qui est rempli d'encombrants, est-ce que c'est normal? Un conteneur rempli d'encombrants. Des gravats comme la palette, tout ça. Ou des toilettes, on trouve des toilettes dans les cabinets, des cumulus, des armoires. Donc un conteneur, c'est fait pour la poubelle, c'est pas fait pour les encombrants. Voilà.
Il faut dire
après,
qu'on est.
Gens, ils sont pas corrects aussi.
Il faut dire qu'on est une benne de ménagère. Là, on va retourner là où il y a les cages.
Dites que le tour alors. Vas-y, fais le tour, c'est bon, frère, vas-y.
Et voici pour ce reportage. Par souci d'honnêteté journalistique, je me dois de préciser que cette rencontre a été organisée à notre demande par une attachée de presse de la communauté urbaine. Alors on la remercie, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que pendant l'enregistrement, sa présence rapprochée a peut-être bridé la liberté de parole des agents que nous avons interviewés.
Réchauffage, débarrage, en avant.
Le départ est donné. Chacun d'entre nous, bientôt se ranimer. Dans les rues on sillonne, nos camions bourdonnent, et toutes les poubelles vont se vider. Dans la pluie, la neige et le vent, on marche la tête en avant. Pas question de se dégonfler, on doit tout ramasser. Le métier que l'on fait est facile, on le pense, mais il faut se méfier des apparences. Poubelle après poubelle, pas question de choisir, le poids, les kilomètres font souffrir. Dans la pluie, la neige et le vent, nous sommes là, dormez bonnes gens. Un petit coup de balai à donner, et tout est nettoyé.
Allez les gars, nous les gars de la voirie, sur les trottoirs des grands.
les gars de la voirie, un enregistrement de 1981 attribué à un certain Gaston Lagraffe.
Ça vient pas de nulle part.
Alors un gars de la voirie, il y en a un dans ce studio, Pierre Godard, vous avez été éboueur à Marseille pendant plus de 20 ans. Vous êtes aujourd'hui employé municipal et syndicaliste au SDAU FSU des Bouches-du-Rhône, si je ne me trompe pas. Exact. Pierre Godard, bonjour.
Bonjour.
André Donzel, vous êtes sociologue et chercheur au CNRS, bonjour à vous.
Bonjour.
Et ensemble, tous les deux, vous avez signé un ouvrage que vous avez titré « Éboueur de Marseille, entre lutte syndicale et pratique municipale ». Dans ce livre, vous tentez de raconter la longue et chaotique histoire des poubelles de Marseille, hein, une histoire qui, dès l'Antiquité, commence plutôt mal, André Donzel.
Oui, effectivement. Bon, on a un chapitre qui s'intitule « La longue histoire de la propreté à Marseille ». C'est vrai que c'est un thème qui traverse toute l'histoire de la ville, effectivement, depuis l'Antiquité, bon, parce qu'il y a des descriptions déjà de la ville à l'époque qui disaient que la ville était déjà en retard par rapport à d'autres villes qui étaient conçues sur le modèle romain, c'est-à-dire Marseille était une ville grecque et en fait les Grecs misaient beaucoup sur les remparts mais assez peu sur les aménagements internes de la ville et les équipements, alors que les Romains au contraire ont beaucoup développé tout l'aspect des infrastructures urbaines, de l'eau, de l'assainissement, tout ça, et c'était pas le cas de Marseille et donc déjà elle détonne par rapport à des villes du voisinage qui sont créées par les Romains comme Aix, Nîmes, Arles. Donc il y a déjà un décalage et qui s'est prolongé tout au long de l'histoire. Il y a des descriptions de la ville aussi au Moyen-Âge qui montrent que Marseille est très sale,
oui,
et puis ça se perpétue.
Justement, au Moyen-Âge, hein, le sous-équipement est toujours là et toutes les ordures de la ville finissent dans le port à un moment donné. Donc ça pose des problèmes. Notamment, je crois que le port devient inutilisable à cause de la vase.
Oui, effectivement. Bon, il y a une solution de facilité. C'est vrai qu'à Marseille, on peut tout déverser dans le port de Marseille. Quand il pleut, tout se déverse dans le port. Donc, effectivement, c'est un service qui est gratuit. Et bon, il y a une corporation qui se met en place, qui s'appelle les Escoubiers, mais qui, c'est une...
Oui, les escoubiers, hein, du mot escoube, le balai en provençal, quoi. Donc ce sont des balayeurs informels finalement.
Oui, tout à fait. Bon, c'est un petit métier, comme on dit, et donc qui est occupé par les populations les plus pauvres de la ville mais qui en même temps ont une certaine autonomie par le fait que c'est elles qui ont la responsabilité de nettoyer la ville sans concours de la municipalité, en fait, des services municipaux. Donc ils s'autofinancent sur la vente des déchets aux paysans du terroir. Donc c'est un système un peu d'économie circulaire qui se met en place à cette époque-là, qui fonctionne plus ou moins bien, mais qui va exploser au fur et à mesure de l'urbanisation, parce que les paysans n'ont plus les moyens d'absorber tous les déchets qui sont produits par la ville. Et donc ça va être un problème après, encore plus au moment de la révolution industrielle et portuaire du 19e et jusqu'à nos jours.
Ouais. Donc à plusieurs reprises, hein, les autorités qui ne sont pas satisfaites du travail des escoubiers tentent d'interdire cette activité pour la confier à des entrepreneurs privés. Donc il y a plusieurs projets comme ça qui vont échouer. Et c'est finalement la municipalité de Max Consola qui va venir à bout des escoubiers. Donc c'est en 1835, le nettoiement de la ville de Marseille est délégué à un entrepreneur privé qui doit se soumettre à un cahier des charges précis. Je vous propose d'en écouter un extrait dans la voix d'Alexis Huguet.
Article 1er. Le service du nettoyement de la ville de Marseille est mis en régie à dater du 1er avril 1836. Nul autre que l'entrepreneur agréé par l'administration ne pourra s'immiscer dans les opérations relatives au nettoiement et balayage de la ville et des maisons de particuliers. Article 5. L'entrepreneur du nettoiement emploiera chaque matin le nombre d'hommes nécessaires au balayage. Article 7. Le balayage aura lieu 2 fois par semaine sur les places, tous les jours sur les autres lieux. Article 11. L'entrepreneur fournira aux travailleurs balais, pelles, tournées, brouettes et ratissoirs. Article 12. Dans les temps de neige, il sera tenu d'employer pendant toute la journée les travailleurs du balayage à relever les neiges et briser les glaces. Article 13. Le service du nettoiement se compose de l'enlèvement de tous les objets quelconques et de l'enlèvement à domicile des ordures. Article 14. Il se fera au moyen de bêtes de somme et charrettes à 2 ou 4 roues, au choix, munies de tonneaux plus ou moins grands, pour recevoir les ordures suivant la nature du sol. L'entrepreneur sera tenu d'employer à ce service au moins 50 voitures et bêtes. Article 20. Chaque voiture sera desservie par 2 hommes au moins, assez robustes pour faire le travail avec célérité. Avec le balai, ils ne laisseront aucun résidu traîner. Article 32. Toutes les matières seront transportées dans la propriété acquise par la ville au sieur Soulier, sur le grand chemin de Toulon. L'entrepreneur pourra vendre ses fumiers. Fait à Marseille, le 8 décembre 1835. Le maire, Max Consola.
Alors malgré cet effort de nettoiement, la situation sanitaire reste médiocre, notamment à cause des défaillances dans l'assainissement des eaux. Dans votre livre, Pierre Godard, André Donzel, vous écrivez qu'en 1884, le choléra frappe encore, et qu'en 1887, Marseille compte 370 000 habitants, et que sur près de 33 000 maisons, 13 000 n'ont pour exutoire que la rue ou le ruisseau.
Oui, absolument. C'est très bien résumé. Il y a eu l'arrivée de l'eau de la Durance à Marseille dans les années 1840, mais ça n'a pas suffi parce que le réseau d'égouts est quasiment inexistant. Il faudra donc effectivement attendre qu'on construise le grand collecteur dans les années 1880, qui sera finalement ouvert après 1890, pour qu'il y ait un début d'assainissement des quartiers de Marseille. Pas tous encore, hein, puisque jusqu'à une période récente, il y a beaucoup de quartiers de Marseille qui n'étaient pas desservis par l'égout, hein, jusque dans les années 80.
Revenons un siècle plus tôt, hein, dans les années 1880. Vous écrivez qu'en 1886, on avait tenté d'évacuer les gadous en les embarquant sur des chalands avant de les jeter à la mer, et que ça a été un échec parce que les courants marins faisaient refluer les produits sur les côtes, sans compter que pendant les périodes de mauvais temps, les chalands restaient bloqués dans le vieux port. L'odeur était donc insoutenable au point de rendre le quartier inhabitable. Donc il a fallu trouver un autre moyen d'évacuer les déchets, et je crois qu'on a fini par le trouver au tout début du XXe siècle, quand la ville achète un terrain dans la plaine de la Croix.
Oui, en fait, c'est bien avant 1912 que les déchets sont transportés en Croix. C'est un ingénieur, le fils
de Montrichet,
le fils de celui qui a créé le canal de Marseille, hein, qui achète ce terrain-là et propose à la ville le transport par voie ferrée jusqu'à Entressin, hein, comme on disait. Et donc,
la décharge d'Entressin, donc on est à une 60aine de kilomètres de Marseille.
Oui, voilà. Et qui deviendra la plus immonde décharge jusqu'à sa fermeture il y a très peu d'années. Hein. Et le problème qui se passe dans ces années-là, c'est que les déchets commencent à poser problème. Parce que dans notre bouquin, on traite de l'histoire du déchet. Du temps des Escoubiers, les déchets sont parfaits. On a trouvé des textes de l'Académie des sciences et même de réunions internationales sur cette question. Les déchets sont parfaits. Ils sont déposés dans les champs bruts de coffrage, c'est-à-dire sans aucun traitement, etc. Et quand ça se dégrade, on trouve la solution d'Entressin. Et dès le début du XXe siècle, les déchets sont de moins en moins acceptés par les agriculteurs. Hein, et c'est là que va vraiment commencer l'amoncellement et la fameuse colline d'Entressin.
Voilà. D'accord. Alors, en 1914, pour revenir au nettoiement à Marseille même, le service du nettoiement est retiré à la gestion privée et confié à une régie municipale. En 1926, celle-ci dispose de 5 camions automobiles et d'un camion hippomobile, donc des chevaux. Et en 1937, pour se débarrasser des déchets, on construit un incinérateur dans les quartiers nord.
Oui, c'est une histoire assez étrange et complètement occultée. C'est-à-dire, quand on a découvert ça, au travers de nos recherches, on est allé questionner les vieux de la vieille du quartier, qui pourtant portaient une mémoire populaire extraordinaire, notamment des luttes ouvrières, etc., etc. Et aucun n'a su nous dire où était l'incinérateur. En fait, c'est tout con. Il est sur l'actuel garage de la Cabucelle, tout près des abattoirs. Hein. C'est une machinerie extraordinaire, cet incinérateur, mais il marchera mal. Il marchera mal parce que fondamentalement, à cette époque-là encore, la nature des déchets fait que... Qu'est-ce que c'est les déchets dans ces années-là ? C'est beaucoup de cendres, énormément de cendres, un peu de carton, beaucoup de petits résidus urbains, mais il n'y a pas de plastique encore. Hein, il y a très peu de plastique, il y a des bouteilles, hein, et donc l'incinérateur marchera assez mal. Et c'est Defferre qui mettra un terme, et ça va coûter très cher jusqu'à l'année 1968, aux finances marseillaises.
Gaston Defferre, qu'on va écouter tout de suite, c'était lors d'une victoire électorale en 1965.
Defferre, une première.
Nous avons gagné ce soir la bataille des élections municipales de Marseille. Le gouvernement et l'Élysée avaient mobilisé toutes leurs forces pour nous chasser de la mairie. Nous avions, au cours de notre dernier mandat, une majorité de 34 sièges. Nous avons maintenant une majorité de 41 sièges. Au cours de cette campagne électorale, nous avons assisté à la collusion entre l'UNR et le Parti communiste, entre les forces gaullistes et le Parti communiste. Nous avons triomphé de cette coalition. Nous en sommes fiers, moins pour nous que pour le peuple de Marseille, qui a ainsi donné la preuve de son indépendance d'esprit.
Alors c'était une archive de l'ORTF du 21 mars 1965, et si je voulais qu'on écoute Gaston Defferre, qui tu vois ne parle pas des déchets ici, c'est parce qu'il a été maire de 1953 jusqu'à sa mort en 1986, et donc que ce membre du Parti Socialiste a donc profondément marqué l'histoire de Marseille, et donc celle de ses poubelles. André Donzel, Pierre Godard, on reviendra plus tard sur la question de la gestion du personnel et sur les privatisations, mais du point de vue purement technique, qu'est-ce qu'on peut retenir des années Defferre ? On peut déjà remarquer qu'elles coïncident avec les débuts de la société de consommation.
Oui, quand Defferre arrive aux manivelles en 1953, la situation est telle que la priorité n'est pas aux déchets. Et il fait faire un audit qu'on publie là, qui dit, bah, écoutez, le coût comparé avec toutes les autres métropoles de France, est le plus bas. Et on publie les chiffres qu'ils avaient donnés à l'époque. Et simplement, on va acheter des camions un peu plus compresseurs parce que les balayures tendent à devenir plus carton, plus, etc. Voilà. Donc, il fait ça et basta. Et ce qui est demandé au service public de la propreté, c'est une seule chose, réussir à enlever chaque jour la somme des ordures dans chacun des arrondissements. Si par hasard, pendant un ou deux jours, dans un quartier, on n'y arrive pas, on met des jours et des jours après, parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de matériel, il y a peu d'hommes, etc. Et on pique sur les cantonniers, on prend du personnel cantonnier pour le mettre à la benne. Et à l'époque, il y a une acceptation de cette situation. Hein. L'idée que cette ville portuaire ne soit pas très propre est très acceptée, et les éboueurs qui sont en finie-partie, qui travaillent 5-6 heures par jour, sans conteneur, sans rien, avec des camions extrêmement peu efficaces, sont très populaires, très très populaires dans ces années-là.
Dans les années 70-80, il va y avoir une grande innovation qui va changer un peu cette situation, c'est la conteneurisation.
Alors c'est une sacrée aventure ce truc qu'on décrit minutieusement. La ville de Marseille s'y lance avec difficulté parce que l'organisation de l'habitat marseillais, à la différence de Paris par exemple, il n'y a pas de cour, il y a très peu de place au pied des escaliers et toute la ville, tout le centre-ville ne permet pas l'installation des conteneurs. Et ça mettra des années, des années, des années. Il y aura un rejet, on peut le dire, massif de la part de la population. circulation de ces fameux conteneurs.
Vers la fin des mandats, des multiples mandats de Gaston Defer, dans les années 70, on a un volume des ordures ménagères qui se fait de plus en plus colossal, hein, c'est la société de consommation encore une fois. Alors comment s'en débarrasser? Il y a trois alternatives, l'incinération, le stockage et le recyclage. Quel est le choix qui va être fait à Marseille?
Eh bien, en fait, c'est principalement le choix de l'incinération. Et c'est un peu en contradiction avec toute la tradition locale, puisque bon, on a vu que au XIXe siècle, la ville avait plutôt fait le choix des décharges contre l'incinération. Il y a eu des tentatives d'incinération qui ont été faites à Marseille, dont une. Qui a échoué puisque l'incinérateur fonctionnait très très mal dans les quartiers nord et donc on a finalement décidé d'abandonner ce moyen de traitement des déchets. Et jusqu'au début des années 2000, tout le monde pensait que l'incinération c'était pas la bonne solution et qu'il fallait trouver des solutions soit de décharge, soit de traitement par recyclage et tri. Et puis, assez brutalement, dans les années 2000, il y a eu ce projet d'incinérateur à Fos qui a été choisi de manière pas très concertée et qui s'est imposé contre toutes les autres solutions.
De l'or, des cartons dorés remplis de trésors dans les poubelles du port. Je suis éboueur à Saint-Tropez. Je trouvais des rêves qu'on avait jetés. Quand la nuit s'achève, là où finit la jetée, je suis éboueur à Saint-Tropez. J'ai ramassé des kilos d'envie, des kilos de regard de joli bateau.
Le riche vient se montrer,
le pauvre vient regarder,
et nous, on vient nettoyer. J'ai trouvé des pleurs qui avaient pas séché, des histoires de cœur enfermées dans un sachet. Je suis éboueur à Saint-Tropez.
Des histoires d'amour qui n'ont pas gagné leur billet retour et qu'on laisse ramasser par les éboueurs de Saint-Tropez. J'ai récupéré des jalousies, des kilos de un jour on aura ça. Le riche vient se montrer,
le pauvre vient regarder,
et nous on vient ramasser.
Prochain été, on est et
jusqu'au prochain été. On est éboueur à Saint-Tropez.
Ponzella avec Henri Salvador, l'éboueur de Saint-Tropez.
Vous écoutez Radio Grenouille et ça vient pas de nulle part. Aujourd'hui, nous vous proposons une petite histoire des poubelles de Marseille avec à nos côtés André Donzel et Pierre Godard, auteurs de l'ouvrage Éboueur de Marseille entre lutte syndicale et pratique municipale.
André Donzel, juste avant cette pause musicale, vous nous parliez de l'incinération, mais ce n'est pas l'unique méthode qui est utilisée aujourd'hui pour se débarrasser des déchets que produit Marseille. Il y a aussi un petit peu de collecte sélective.
Oui, absolument. Dans toutes les villes, il y a eu des politiques qui visaient à favoriser le tri sélectif des déchets. On est quand même obligé de constater qu'à Marseille, les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous, puisque la part de la collecte sélective est très très faible comparativement à ce qu'on observe dans certaines villes où quelquefois la quasi-totalité des déchets sont triés et traités en collecte sélective. On cite souvent le cas de San Francisco où 95% des déchets sont triés en collecte sélective. Et donc, il y a très peu de déchets qui, au final, sont incinérés.
À Marseille, on est à quelle proportion ?
Alors on estime que sur un total au niveau de la communauté urbaine de 450 000 tonnes de déchets, il y a à peu près 6% quoi, des déchets qui sont traités en collecte sélective, ce qui est très faible. C'est un des taux les plus faibles de France.
Dans les 94 autres pourcents, donc il y a ceux qu'on incinère et ceux qu'on stocke aussi.
Oui, c'est Voynet qui, au milieu des années 90...
Dominique Voynet,
la ministre de l'Environnement, sous Jospin, si je ne me trompe pas, qui dit OK pour les incinérateurs, mais ils ne devront pas faire plus de 50% du tonnage produit par les villes ou les zones urbaines, etc. Et à ce moment-là, la ville de Marseille, qui n'avait aucune culture de cette affaire-là, et était d'un scepticisme absolument total sur la possibilité d'obtenir, ce qu'il le formulait comme ça, une discipline de la part des Marseillais, décide de se lancer dans cette aventure, parce que le chiffrage qui est avancé à cette époque-là, c'est 25%. C'est-à-dire qu'il faut en 4 ans faire 25%. André vient de raconter l'histoire de San Francisco, mais San Francisco démarre en même temps que Marseille et arrive à ce tonnage aujourd'hui.
Alors pourquoi Marseille, on n'y arrive pas ?
Alors Marseille rate la marche complètement. Là, je pense qu'il y a un problème de culture, c'est-à-dire que les élus ont fait un virage brutal vers la collecte sélective, vers l'incinération, virage fait sous la domination des grands trusts, des grandes sociétés, Suez, Veolia, etc., qui vraiment 90% des ingénieurs sont passés par ces boîtes-là, quoi. Hein, et des ingénieurs indépendants à la hauteur de ces dossiers-là, il y en a extraordinairement peu. Voire il n'y en a pas. Et donc il y a un tournant brusque qui est fait, d'autant plus qu'à ce moment-là il se passe un truc, c'est qu'il y avait dans le département, on donne les chiffres, quelque chose comme 80 décharges, et qui multipliaient des incendies phénoménaux. Un incendie sur deux à peu près dans le département dans les années 80 démarre à partir de décharges sauvages ou plus ou moins surveillées. Voilà, donc il y a un tournant radical. Vers l'incinération, et ils ne croient plus qu'à ça, et ils ne bossent plus sur les alternatives, plus du tout. Et alors, il lance une collecte sélective sans y croire. Or, pour que ça marche, une collecte sélective, il faut un énorme boulot en direction de la population. Il faut donner du sens à la chose. Il faut montrer que ça a un sens du point de vue du développement durable, que ça a un sens du point de vue de l'économie, y compris de vous-même, monsieur et madame machin de la rue machin. Hein, ça a du sens, etc. Ça veut dire une implication extraordinaire de toute la superstructure politique, mais aussi de toute la structure technique, hein, des éboueurs, des communaux, etc. Et tout ça n'a pas été pensé. D'emblée, on a décidé qu'on contournerait l'habitat vertical, c'est-à-dire tous les quartiers populaires de Marseille. Alors que c'était l'occasion de faire un truc merveilleux, c'est d'installer au pied de ces immeubles des déchetteries. Hein, qui aurait pu être gardé 15 heures, 16 heures par jour, 14 heures par jour, du matin très tôt au soir tard, et être des lieux de vie dans ces cités. Et on aurait gagné, si on avait fait ça correctement, avec 2-3 personnes en permanence, beaucoup de choses, parce que quand on gagne la propreté dans ces cités-là, on gagne bien plus que la propreté. Hein, on gagne à vivre ensemble. Et il y a des villes qui ont réussi tout ça. Hein. Donc il n'est pas trop tard pour bien faire. Et il faut absolument se lancer sur ce chemin-là. Aujourd'hui, à Marseille, faire de la collecte sélective, dans pas mal de quartiers, pas partout, mais dans pas mal de quartiers, ou sur la communauté urbaine, dans pas mal de zones, c'est très difficile. Hein? Moi, j'habite au milieu des quartiers nord, c'est très difficile, hein, d'amener mes bouteilles de verre, mes plastocs, les machins, etc.
Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une raison économique derrière ? Parce qu'aujourd'hui, le marché des poubelles, que ce soit le nettoiement ou le stockage in fine dans des décharges, c'est devenu une affaire de gros sous.
Absolument. La filière des déchets, c'est devenu une filière très, très rentable. Bon, ça rapporte beaucoup d'incinérer des déchets, de les stocker en décharge. C'est ce qui rapporte le plus, c'est ce qui est le plus privatisé. La collecte, c'est encore un peu public, mais tout le traitement est maintenant privatisé. Et c'est des coûts de plus en plus élevés, parce que chaque fois qu'on renouvelle les concessions, les prix augmentent. Et en plus, il y a des clauses qui font obligation, par exemple pour l'incinération de fosses, il faut approvisionner suffisamment l'incinérateur et la commune s'engage à fournir un certain tonnage d'ordures. Donc ça devient complètement antinomique avec le fait de traiter les déchets, quoi, et de les recycler et de les trier. Et effectivement, la logique économique est devenue très très déterminante. C'est devenu On est devenu sur un modèle de gestion très centralisé et très, très capitalistique, comme on dit.
Alors, quand on parle de sommes considérables et qu'il est question, dans le même temps, de marché public, forcément, on peut se poser la question de la corruption. Voilà, dans votre livre, vous évoquez quelques affaires, hein, voilà, notamment histoire emblématique dont la presse a longuement parlé, Alexandre Guérini, quoi, le frère du président du Conseil général, qui a fait fortune dans la gestion de décharges.
Pour parler simple, le secteur des déchets pisse le fric par des tas de niveaux, par des tas de circuits, par des tas d'endroits. Et la population a mis longtemps à avoir un regard sur cette affaire-là, et les outils de contrôle de l'État, les préfectures, même les chambres des comptes, qui ont fini par s'y mettre et s'y mettre assez bien, l'ont fait tardivement. Et pendant très très longtemps, ce secteur-là, on raconte l'histoire dès la toute fin des années 70 des décharges, dans lesquelles on voit apparaître des noms, dont celui d'Alexandre Guérini. Hein, mais toujours derrière, il y a Veolia, il y a Suez, il y a Cita, il y a les grands groupes. Hein. C'est eux, et fondamentalement l'affaire Guérini, elle nous parle de ces mœurs-là, de ces façons de faire. Hein. Il faut savoir que quand même, quand Veolia vend sa décharge, est obligée de vendre sa décharge de salon, hein, elle propose un prix qui sera 10 fois le prix qu'après que la Chambre régionale des comptes, etc., ait gueulé. Mais c'est un miracle que l'affaire ait pété. Hein, c'est parce qu'il y a eu l'affaire Guérini au milieu. Hein. Le prix initial qui avait été validé par les collectivités, par tout le monde, était 10 fois. Hein, et c'était 83 millions d'euros. Hein. Donc, on voit bien quelle est devenir cette marge de profit-là. C'est ça aussi qu'il faut se poser. Et grosso modo, Guérini, lui, quand il vend sa première décharge à Veolia, il hérite de 33 millions d'euros. Mais l'ennui, c'est qu'il savait planquer 1 million d'euros, il ne savait pas en planquer 83. Quoi. Ouais. 33. Voilà. Et donc, là où les grands groupes ont des structures, ont des dizaines de filiales qui peuvent, en quelques minutes, disperser le fric, et il est extrêmement dur à une enquête d'aller retrouver sa trace, hein. Lui n'avait pas ce truc-là. Il fait appel à Boudemag, hein, qui est le financier du milieu de la Côte d'Azur, hein, et là, l'affaire s'embrouille, et tout commence.
André Donzel, Pierre Godard, j'aimerais maintenant qu'on évoque un autre sujet, et pour ce faire, j'aimerais qu'on écoute une archive assez récente. C'est un extrait du journal télévisé de France 2, du 3 novembre 2009.
La crise à Marseille, la deuxième ville de France, est envahie par des milliers de tonnes d'ordures. Depuis 5 jours, le ramassage n'est plus assuré suite à un conflit social. Les riverains sont excédés, les élus menacent de porter plainte. Sur place, Isabelle Stès, Christophe Larocca.
Pas facile de se frayer un passage dans les rues de Marseille aujourd'hui.
Des problèmes qu'on ne peut pas circuler, que ça sent mauvais et qu'on ne sait plus où mettre les poubelles.
Des tas d'immondices qui pourrissent ainsi en plein centre-ville, au pied des habitations et des commerces. 5 jours que cela dure et les Marseillais n'ont plus d'autre choix que de jeter leurs poubelles juste devant leurs portes.
Les poubelles là, les bennes pleines et les rats qui sautent de partout, franchement c'est une honte.
Vous êtes gênés par les odeurs?
Absolument, ah oui, oui.
Les riverains,
j'habite en haut, ça pilule, ça pue. Oh, des souris vont monter chez moi maintenant.
Ah oui, c'est normal. Hein,
la nuit je dors pas, mon fils, maman, viens voir les souris qui montent. C'est grave, là.
La centaine d'agents de la société privée chargée de la collecte des ordures a cessé le travail pour protester contre le transfert de compétences au public. La communauté urbaine parle de prise d'otage des 870 000 Marseillais.
Tous les 6 mois, c'est comme les transports, ils sont toujours en grève. Hein.
On n'a plus de clients, il n'y a personne qui vient prendre des sandwichs, il n'y a plus de clients, on ne travaille plus. C'est pour ça. On aimerait bien qu'ils ramassent.
Ce sont 1600 tonnes d'ordures qui sont ainsi déversées chaque jour dans les rues de la ville. Et pour l'instant, il n'y a aucun accord en vue entre les salariés chargés de la collecte et la communauté urbaine de Marseille.
Alors c'est assez frappant, hein, quand on fouille dans les archives télévisuelles, dans les reportages qui sont consacrés aux grèves des éboueurs. On entend énormément les habitants se plaindre, mais on apprend très peu de choses sur les raisons des mouvements sociaux. Comme si finalement les éboueurs faisaient la grève pour le plaisir. Alors... Pierre Godard, vous qui êtes, je le rappelle, ancien éboueur et syndicaliste, quelle est d'après vous la raison qui a fait que depuis 40 ans, il y a très fréquemment des grèves des éboueurs à Marseille ?
Je pense modestement qu'un des intérêts majeurs de notre bouquin, c'est de mettre de l'ordre dans cette histoire. Il y a, comme ça, si on regarde, un conflit tous les 2 ans et demi, 3 ans majeur. Mais si on classe l'affaire, on s'aperçoit que tous les conflits des sociétés privées, et il y en a, si je ne me trompe pas, 6 qu'on a repérés, c'est-à-dire des conflits de plus de 4 jours, qui sont à peu près le temps qu'il faut pour qu'une grève devienne vraiment un problème, hein, que les conteneurs saturent, etc. Tous, sans exception, sont des conflits liés au renouvellement des marchés publics, qui chaque fois sont faits dans un tel désordre. Et dans les premiers marchés, à partir des années 80, qu'on recense, sont faits avec l'objectif de faire porter aux chargeurs, aux hommes, une charge de travail irresponsable. C'est-à-dire un tonnage quotidien irresponsable, ou avec un seul chargeur derrière la benne, ce qui est tout simplement inhumain. Ou de travailler 6 jours sur 7. Et on a lutté contre ça, et il y a eu un lien entre les éboueurs du public et du privé dans toutes ces années-là contre ça, et on a eu raison, j'assume totalement, c'était des conflits haut en couleur, tout ce qu'on veut. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois, on a eu une co-organisation du contre-feu médiatique par la ville et les sociétés privées, hein, et que ça a été très long, très difficile. À certains moments, on a gagné la bagarre. Dans les années 80, on l'a gagné. Voilà, du côté du service public... Hein? Quand on s'est mis au boulot avec André, tout d'un coup, on découvre une période de 17 ans sans grève. On se dit, zut, on en a loupé une ou une histoire comme ça. Eh bien non. Alors, qu'est-ce qui fait que ça apparaît? C'est qu'au milieu, il y a aussi 3 grèves d'une grande importance, qui sont les grèves contre les réformes, entre guillemets, des retraites. Voilà. Alors, ça donne un calendrier cumulé et un vécu des Marseillais, bien évidemment, compliqué. Hein, d'autant plus qu'à partir d'un certain moment, on communique mal. Les syndicats communiquent très mal. Les syndicats sont très divisés, ce qui est un sacré problème, hein, et communiquent très mal. Et que ces dernières années, cette mauvaise communication est devenue une vraie catastrophe. Voilà. Mais jusqu'aux années, jusqu'à la fin des années 80, il y a une compréhension de la part de la population de la dureté de ce métier. Tout le monde sait à l'époque qu'on est au fini parti. Hein, mais énormément de métiers marseillais, je dis bien énormément, dans le bâtiment, dans la métallurgie, tous les gars de la répa navale, tout, etc., hein, sont sur un système comme ça. Et tout le monde sait que la charge de travail est importante, extrêmement difficile. Même aujourd'hui, on publie à la fin du bouquin une donnée scientifique faite par des chercheurs médicaux et des toubibs, hein, qui montre à partir des seuls bilans du service public, hein, dans les sociétés privées c'est bien pire, que le taux d'usure d'un éboueur, hein, et dans les pires, c'est même légèrement pire que les gens du BTP.
Le soir venu, quand je t'ennuie, je sens les poubelles dans la nuit. Il n'y a eu qu'un petit ennui, c'était le jour et pas la nuit. La nuit.
Agathe The Booze, Les Poubelles de la Nuit, une chanson courte mais efficace, tout comme la question que va maintenant vous poser Juliette Palmade, qui est avec nous dans ce studio, André Donzel et Pierre Godard.
Alors pour conclure, Marseille, ville propre ou ville sale ?
C'est une ville, c'est difficile, il y a des quartiers qui sont propres, d'autres qui ne le sont pas. C'est très inégal à l'échelle de la ville, comme ça a été très fluctuant dans l'histoire de la ville. Bon, la saleté de la ville, c'est pas une fatalité. Il y a des périodes, ça s'est amélioré, d'autres pas. Et aujourd'hui, il y a des quartiers de Marseille qui sont très, 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 très propres et très agréables. Le problème se concentre essentiellement dans les quartiers centraux où il y a beaucoup de passages et donc ça se salit beaucoup plus. Il y a des commerces aussi. Et puis, dans certains quartiers populaires où les distances sont très grandes et les fréquences de ramassage sont beaucoup moins fortes, donc il y a toujours des inégalités, mais c'est variable suivant le temps et l'espace.
André Donzel, Pierre Godard, merci. Il y avait un autre sujet important que nous n'aurons malheureusement pas le temps d'évoquer. Il s'agit de la cogestion des personnels municipaux entre la mairie et le syndicat Force Ouvrière, une espèce de clientélisme un peu louche qui a également joué un rôle dans toute cette histoire. Pour en savoir plus, je renvoie donc l'auditeur à votre ouvrage « Éboueurs de Marseille entre lutte syndicale et pratiques municipales ». Il a été publié chez Sileps. Ça vient pas de nulle part, c'est pas encore fini.
C'est la grève des éboueurs, y'a une odeur pestilentielle. C'est la grève des éboueurs, je slalome entre les poubelles. Je compte les mouches qui se posent sur un monde qui se décompose. Les rues noyées sous la crasse, charrie une boue dégueulasse. C'est que la pire des saletés, c'est toi et je peux même pas te jeter. Le comble c'est que la pire des saletés, c'est toi et je peux même pas te jeter. C'est la grève des éboueurs, on respire pas l'air du grand large. C'est la grève des éboueurs, la ville n'est plus qu'une décharge. Inconnus fleurissent et d'ici peu dans ce cloaque les rats vont passer à l'attaque. Le comble c'est que la pire des saletés, c'est toi et je peux même pas te jeter. Le comble c'est que la pire des saletés, c'est toi et je peux même pas te jeter.
La grève des éboueurs, c'était le très énervé Jacques Duval sur Radio Grenouille.
Ça vient pas de nulle part.
Pour terminer cette émission, on va essayer de tordre le cou à une légende urbaine. Celle qui dit qu'à Marseille, il ne sert à rien de trier ses déchets puisqu'après coup, tout est remis dans la même benne. C'est faux. En tout cas, nous avons vu totalement l'inverse.
Eh oui, pas plus tard qu'hier, nous sommes allés au Penn Mirabeau pour visiter le centre de tri et il fonctionne. L'entreprise qui le gère s'appelle Cita Méditerranée. C'est une filiale du groupe Suez. L'usine traite les déchets recyclables des agglomérations de Marseille et Aix-en-Provence et même du parti du Vaucluse. Le tri y est fait automatiquement et manuellement, 5 jours sur 7, grâce à une cinquantaine d'hommes et de femmes.
Et c'est le directeur de ce tri, Gérald Chaumaz, qui nous a fait visiter les installations.
Perdu dans la garrigue, sur les hauteurs des Penn Mirabeau, c'est une grande usine. À l'entrée, les camions viennent décharger le contenu des bennes de tri sélectif. Il y a du papier, du plastique, du verre, du carton et du métal.
En entrée, on a plus d'une centaine de camions. Après, ça dépend les jours. Les jours de plus forte affluence, on peut avoir jusqu'à 200 tonnes de collecte sélective qui sont en train.
Tout commence par un premier tri pour éliminer les déchets qui n'ont rien à faire là. Par exemple, les tuyaux d'arrosage qui peuvent s'entortiller autour des roulements mécaniques et bloquer toute la chaîne.
Donc à l'issue du pré-tri, on va voir les deux organes qui permettent de séparer les flux entre les corps plats et les corps creux. Corps plat, comme son nom l'indique, plat, c'est majoritairement des papiers carton. Corps creux, c'est tout ce qui est emballage, flaconnage, plastique, métallique.
Et pour ce faire, on utilise une machine qui s'appelle un trommel.
Concrètement, c'est un gros tambour de machine à laver avec des trous, avec une maille, et qui permet de passer en fonction de la maille les différentes tailles d'objets.
D'autres machines permettent de compléter ce tri automatiquement, mais l'intervention de l'homme est toujours nécessaire. Devant trois grands tapis roulants, une vingtaine d'ouvriers séparent à la main les différents types de papier. Il pallie aussi à l'imperfection des machines en éliminant les derniers matériaux indésirables.
Le papier donc, qui est issu de ce tri-là est déversé au sol parce qu'il est rechargé lui en vrac. Le camion se positionne ici, je ne sais pas si on en verra un tout à l'heure. Et donc on le charge au godet de la chargeuse en vrac et il va alimenter les filières majoritairement nationales pour ne pas citer un papetier à Épinal, un papetier à Valence, etc.
Le papier redeviendra donc du papier. Quant aux autres matières, il faut aussi qu'elles soient triées.
Donc le tapis de corps creux, le flux va arriver sur un aimant. On va retirer l'acier. Acier qui va descendre en sous-niveau pour lequel on va faire des paquets de 24 kg qui sont ensuite restitués au Arcelor, pour ne pas les citer, qui refont la matière et refait de l'acier pour n'importe quel usage correspondant.
Les plastiques sont triés par un système de lecture optique qui les classe par couleur. À terme, une bouteille en plastique peut redevenir une bouteille en plastique. Mais même les déchets refusés, non recyclables, peuvent avoir une autre utilité.
Et aujourd'hui, on travaille à la valorisation matière et énergétique et on mène des essais pour pouvoir convertir ça en combustible de substitution résiduelle sur notre unité d'Istre Provence Valorisation, pour pouvoir servir notamment en combustible pour les cimentiers qu'il existe dans la région.
Mais même quand ils ne sont pas brûlés, ces déchets résiduels peuvent produire de l'énergie.
Par les méthodes d'enfouissement, vous créez du biogaz, biogaz qui va créer une énergie qui va être utilisée potentiellement pour chauffer.
Le centre de tri des Penn Mirabeau a une capacité de 96 000 tonnes de déchets à l'année. Mais à l'heure qu'il est, seules 50 000 tonnes y sont traitées. L'usine est donc tout à fait prête à accueillir les déchets des Marseillais qui ne se sont pas encore mis à trier.
Et qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ont la flemme de faire le tri ?
Alors, de façon très simple, l'avenir passe par le tri au niveau de nos ressources. On sait que la Terre a pas des ressources qui sont extensibles. Et donc on a des matières aujourd'hui qui sont disponibles. Autant les utiliser pour pas pénaliser la nature aujourd'hui sur des éléments sur lesquels on peut s'appuyer, et notamment des matières qui ont déjà été créées.
Dimanche passé, c'était la journée de la femme. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la plomberie. Ce qui nous donne l'occasion de vous donner deux tuyaux de plus qui devraient mettre un point final à bien des désaccords domestiques. Les boîtes d'œufs, ça part au recyclage, les bouchons des bouteilles en plastique aussi. Voilà, ça vient pas de nulle part, c'est fini pour aujourd'hui. À la technique, c'était Sébastien Gély. Pour le reste, cette émission a été préparée par Claire Rivière et Juliette Palmade avec l'appui de Marie-Noël Battaglia et d'Alexis Huguet. On remercie aussi Claire Favre-Tellas qui nous a prêté sa petite voiture. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur internet en tapant « Ça vient pas de nulle part » et « Radio Grenouille ». Vous y découvrirez aussi sur cette page tous les liens et références que nous avons cités à l'antenne. On vous souhaite un joyeux mois de mars et à très bientôt.